Ce désir de pouvoir un jour dépasser nos limites biologiques ou de nous lever au-dessus des conditions de simples mortels est sans doute presque aussi ancien que l'humanité. Souvenez-vous de Prométhée, vous en rappelez, ces titans qu'entre d'autres choses, ils construisaient, ils s'amusaient à construire des humains à partir de la boue, ou bien Icare que s'est construit, qui voulait voler, s'est construit les ailes en cire. Et le problème, c'est qu'il a volé trop près du soleil et les ailes ont fondu. Cet dilemme toujours des religions monothéistes entre les créatures et les créateurs, jusqu'aux avatars de la réalité virtuelle, les plus anciens textes de la mythologie grecque, aux derniers blockbusters de films de science-fiction, en passant par la littérature dystopique, toujours on trouve cet désir de pouvoir s'améliorer, de pouvoir se dépasser là. J'avais oublié que j'avais un PowerPoint. Oui. Alors, j'ai noté cette phrase de Montaigne de l'an 1588, qui me semble déjà, qui exprime ce désir d'aller plus loin. Pourtant, aujourd'hui, les mythes de l'homme connecté, réparé, amélioré, pardon, que j'ai oublié que j'ai un PowerPoint, hein. Les mythes de l'homme connecté, c'est un peu ce que je vous ai fait l'autre jour. Je dois vous dire, parce que j'ai la tendance au clown, vous voyez, que j'ai oublié les sous-vêtements vibrants. Il y a les sous-vêtements vibrants. Je ne lis pas qu'est-ce qu'il dit ici, mais c'est pour. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il dit, mais c'était marrant. C'est pour perdre pas les contacts avec quelqu'un qui est loin. Mais de toute façon, c'est de l'homme connecté à l'homme amélioré et à l'homme augmenté. J'ai pris cette dialogue des Matrix, vous vous en souvenez des Matrix, du film. Il fait déjà beaucoup de temps qu'on disait ça. Quand on voyait les films, on pensait que c'était science-fiction, un futur même s'il y avait déjà Internet, il y avait déjà les réseaux, on trouvait Matrix très bien, très imaginatif, mais on est là. Maintenant, on est complètement là. Alors, de l'homme connecté et quantifiable qu'on parlait l'autre jour de la dernière séance, qui parle avec ses objets lui organisent la vie, vous vous en souvenez, et qu'il ait des traces partout en forme de données, on arrive aujourd'hui à cet homme augmenté. De toute façon, quand il parlait, Jean-Daniel, de Marx et de vendre son corps, maintenant, je trouve que c'est presque plus important que vendre son corps aussi, mais on vend sa vie avec les données. On vend sa vie, on vend son esprit un peu, on vend sa liberté.
On donne.
Oui, on donne, on vend pas, parce que c'est les autres qui font, tu as raison, qui font le big business, non? Alors, qu'est-ce qu'elles font les nouvelles technologies? Les nouvelles technologies visent à modifier la manière dont l'homme, son corps, et chaque fois plus encore, son cerveau fonctionneront et interagisseront, oui, avec leur environnement. Je ne sais pas pourquoi j'ai les deux en futur, que ça, c'est difficile pour moi à prononcer parce que c'est maintenant déjà. Hein. Ça fonctionne et interagissent. Elles participent à ce qu'on appelle l'augmentation de l'homme, que c'est ça que Jean-Daniel a déjà parlé, j'en parlais un peu plus, par l'informatique et la technomédecine. Par petites touches, peu à peu, mais elles modifient des données essentielles de notre vie, comme les vieillissements, vous verrez que c'est une des obsessions maintenant, l'intelligence, la procréation. On parle même d'une nouvelle humanité. Ce concept, je le lis chaque fois plus, une nouvelle humanité. Que c'est un concept qui me fait peur, Vraiment, parce que qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle humanité et sur quelle base on va construire cette nouvelle humanité? En tout cas, ce sont des grandes et des petites questions éthiques qui se posent, qui se posent chaque fois de plus devant un phénomène qui ne relève plus que de la science-fiction. C'est un phénomène avec qu'on vit dans ces mondes-là déjà. Alors, comment identifier parmi ce qu'on appelle les technologies de rupture celles qui vont changer vraiment le monde en profondeur? Il y a un cabinet de conseil stratégique, McKinsey, sûrement vous le connaissez, que en 2013, ils ont identifié 12 technologies qui vont changer en profondeur notre monde et notre vie. Parmi ces 12 technologies, il y en a 3 qui nous concernent. Les technologies de l'homme augmenté, les robots de nouvelle génération et la génomique avancée. Aujourd'hui, je vais parler seulement ici de la technologie de l'homme augmenté parce qu'on n'a pas le temps de parler de toutes les autres choses. Qu'est-ce que c'est alors l'homme augmenté? C'est le concept homme augmenté vient de l'année 1957. C'est Julian Huxley, le frère d'Aldous Huxley, qui a été le premier à définir qu'est-ce que c'était cet homme augmenté. Alors, vous pouvez lire, il ne faut pas que je les lise. Globalement, tous ceux qui augmenteraient nos capacités, qui passeraient pour une action directe sur les corps. C'est ça qu'il disait déjà en 1957. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Courir plus vite, voir dans la nuit, supporter la douleur, peut-être posséder des super capacités intellectuelles. En fait, aujourd'hui, nous voulons tous améliorer nos performances, on l'essaye. Être riche, être beau, être célèbre, éternellement jeune, lifté, botoxé, retouché à Photoshop, bronzé aux UVA. UVA, on dit ici? UV. UV, greffé, stimulé cardiaquement, transfusé, chimiothérapé, jusqu'au stade terminal pour ne pas mourir. Comment y arriver à cet stade-là? Beaucoup de choses, vous les avez identifiées parce qu'on les fait déjà depuis longtemps. Mais comment y arriver? On y arrive, les points, ça a été la convergence de ces quatre technologies qui répond à l'acronyme NBIC, NBIC, que ça serait la nanotechnologie avec les atomes, la biotechnologie avec les gènes, l'informatique avec les bits et les sciences cognitives avec les neurones. On connaît ça, on appelle ça l'NBIC comme l'ingénierie de l'esprit. C'est un concept que je trouve intéressant. On parle aussi d'une théorie computationnelle de l'esprit. Cette convergence ici de ces quatre technologies, c'est un peu aujourd'hui le paradigme scientifique qui est à l'origine de l'homme augmenté, la combinaison de ces quatre technologies. Et le focus de ces quatre technologies, ce n'est plus les corps, c'est aussi les corps, mais c'est surtout le cerveau et l'esprit. Il s'agit donc de mieux comprendre le fonctionnement de cerveau et de l'esprit pour être capable de créer une nouvelle espèce de machine intelligente et pourquoi pas hybridée avec le corps humain. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai trouvé cette rapport de centre d'analyse stratégique auprès du Premier ministre. C'était un peu ancien, décembre 2012, mais c'était très bien, c'est très clair pour comprendre qu'est-ce qu'on attend de cette convergence de ces quatre technologies. Dans les rapports, ils parlent d'améliorer l'espèce humaine. Cette concept d'améliorer l'espèce humaine qui est qu'on voit déjà dans ces rapports. De toute façon, on les trouve déjà à la National Science Foundation nord-américaine depuis 2002. 2002, ils parlent, ils ont cette espèce d'obsession pour l'amélioration de l'espèce humaine. Au début, ils étaient centrés sur les corps augmentés. Et dernièrement, comme on voit que ça se répète sur le cerveau et sur l'esprit. Et cet élan qui a donné la National Science Foundation à toute cette thématique-là a donné beaucoup de force à la tendance du transhumanisme. Transhumanisme, que c'est une pensée très américaine, mais avant que vous me dites ça, je vous dis que la France, comme dans le cas de Google, et à l'avant-garde en Europe du transhumanisme, de la pensée transhumaniste. On trouve beaucoup de choses de transhumanisme en France. Pas en Espagne, par exemple. On n'en parle pas beaucoup. Mais j'ai été choquée parce qu'en France, on en parle beaucoup. Transhumanisme qui commence déjà à être dépassé pour ce qu'on appelle post-humanisme. Le transhumanisme, berce sur l'amélioration de l'homme actuel, tel qu'il est. Le post-humanisme parle déjà de quitter son statut d'humain, laisser à côté son statut d'humain. C'est quoi le transhumanisme? C'est pas, j'ai cherché des choses en profondeur, je n'ai pas trouvé vraiment. Hein. Ils parlent de l'immortalité, de toutes ces histoires-là, mais je vous ai trouvé la déclaration de l'Association transhumaniste mondiale et j'ai trouvé les deux points qui me semblent les plus révélateurs. Ils parlent, comme vous voyez là, c'est des articles. Hein. Dans ces premiers articles, ils revendiquent les droits moraux pour ceux qui le désirent de se servir de la technologie pour augmenter ses capacités physiques, mentales, reproductives. Et ils parlent d'être davantage maîtres de leur propre vie. Ils croient ça. Nous souhaitons nous épanouir en transcendant nos limites biologiques actuelles. Et le deuxième article parle déjà des choses concrètes comme techniques d'amélioration de la mémoire, la concentration et l'énergie mentale, les thérapies permettant d'augmenter la durée de vie. Cette histoire de la durée de vie, c'est toujours, elle est là. D'influencer la reproduction, la cryoconservation, bon, et beaucoup d'autres techniques de modification d'augmentation de l'espèce humaine. Ils revendiquent ça sans s'arrêter à penser en le problème éthique ou moral de toute cette histoire-là. Ils disent que c'est un objectif complètement compréhensible d'essayer d'utiliser les technologies qu'on a à portée de la main pour essayer de nous améliorer, que ça, ce n'est pas un problème, pour augmenter nos capacités, notamment cérébrales. Cérébrales. Alors, tout ça dit sur le transhumanisme, ce que c'est très peu, je retourne à mon ami Google. c'est pas un hasard que Google une des premières entreprises qu'il a fondée, c'est Calico. Je ne sais pas si vous connaissez Calico. Ils ont lancé cette entreprise le temps de 2013, focalisée en santé, vieillissement et bien-être. Vous vous en souvenez quand je vous racontais les appareils dans la séance dernière, que tout finissait avec la propagande que j'ai tirée des catalogues des produits. Ils finissaient toujours en disant et c'est très bien parce que vous recevrez beaucoup de graphiques et des images sur vos données que vous pouvez compartir avec vos amis, vous pouvez publier et tout ça c'est pour votre bien-être. Les concepts bien-être et au centre de toute cette histoire-là, parce que c'est un concept très compréhensible pour tout le monde. Google, c'est un des acteurs les plus impliqués dans des projets de l'humanité augmentée et est partie prenante d'un projet, moi je dirais, inquiétant. C'est ces projets. Je ne sais pas si vous connaissez la Singularity University. C'est un projet de Google avec la NASA. NASA, vous dites NASA. Et c'est, je ne sais pas, on ne peut pas les lire très bien parce que si je l'augmente, ça ne se voit pas. Mais ça, c'est les partenaires de la Singularity University, les 2015. Et on trouve d'Amnesty Amnesty International, à Yunus, à le Crédit Suisse, Philips, chaîne de télévision, la Fox. Qu'est-ce que je vis de bizarre en plus? On trouve des organisations non gouvernementales, on trouve des banques, on trouve des boîtes comme Deloitte. Et c'est quoi ça? C'est, ils croient que, ils ont même annoncé que vers 2050-2060, ils seront capables d'arriver à trouver une intelligence supérieure à l'intelligence humaine. Alors, ça et l'immortalité, c'est les deux préoccupations de la Singularity University. Parmi les fondateurs, Larry Page, c'est le fondateur de Google, et il y a aussi Ray Kurzweil, c'est le pape du transhumanisme. Il a un bouquin en français que je vous conseille de lire, il fait un peu peur, mais c'est intéressant. C'est parce qu'il se croit pape de transhumanisme, alors les bouquins sont écrits avec cet objectif. Le livre s'appelle « Serons-nous immortels ?» Il dit que oui. Il dit que sûrement, d'ici pas, c'est pas loin qu'on pourra vivre 500 années, mais il y a le troisième fondateur de la Singularity University, un monsieur qui s'appelle Aubry, c'est un biogérontologiste, Aubry de Grey, c'est un monsieur qui a une longue barbe, de longs cheveux. Lui, il parle de qu'on va vivre 5000 années. Alors, ces messieurs-là, Aubry de Grey, travaillent pour inverser les processus de vieillissement avec des biohackers et avec qui bricolent l'ADN en marge des labos officiels et avec des jeunes chercheurs qui sont très séduits par toutes ces choses-là. De toute façon, il veut utiliser la singularité technologique pour, comme un moyen de créer des postes humains. Mais tout ça dit, chaque fois que je regarde ça et je vois les gens qui sont en train de donner de l'argent, qui sont en train de collaborer avec ça, ça m'étonne de toute façon, parce que ce sont des gens très divers. Et les slogans de tous ces mondes-là, c'est « Don't limit your challenge, challenge your limits ». Que c'est un peu la philosophie qu'il y a derrière le transhumanisme. Mais de toute façon, il y a des voix critiques et j'en ai choisi trois qui sont, je crois, qui sont représentatives. La première, c'est Elon Musk. Elon Musk a été le créateur de PayPal. Hein, vous connaissez PayPal? Oui, oui. De SpaceX, de Tesla. Ils
l'utilisent tous les jours, même sans le savoir.
Oui. De Tesla, alors c'est un monsieur qui a un poids important en tout ça. Et ce mois d'août, il a fait un tweet où il a dit ça. Il faut faire très attention avec l'intelligence artificielle qui pourrait se révéler potentiellement plus dangereuse que les bombes atomiques. C'est de toute façon intéressant qu'un monsieur comme celui-là dise ça. Et tout juste après, ça c'était le mois d'août, et quelques jours après, c'est Bill Gates qui a dit ça. Le plus important, c'est la dernière phrase. Je suis d'accord avec Elon Musk et plusieurs d'autres sur ces points. Et je ne comprends pas ceux qui ne s'inquiètent pas. Et finalement, c'était le mois de septembre, je crois, que Stephen Hawking a déclaré dans un entretien le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la humanité. Les transhumanismes dont semble être un délire d'ingénieur, confondant la biologie et la mécanique, un peu à l'image de Victor Frankenstein, qui croyait qu'en assemblant des morceaux des cadavres, on pouvait faire revivre un homme. Alors, l'homme amélioré n'est plus un mythe, ça c'est je me le demande. C'est bien la perspective d'un homme augmenté est encore, relève encore du mythe et reste encore très hypothétique. Cette hypothèse gagne de crédibilité à grande vitesse. Vous voyez que chaque fois plus de voix sortent en alertant de toutes ces histoires-là. Il y a 14 ans déjà, en 2002, le Converging, il y a eu un rapport qui parlait de la technologie NBIC. C'est pas nouveau, c'est il y a 14 ans, que j'ai voulu noter ici parce que si vous êtes intéressé, c'est intéressant. C'était un rapport commandé par l'administration américaine, nord-américaine, qui considérait sérieusement certaines caractéristiques de l'homme augmenté, notamment en envisageant ouvertement l'amélioration des capacités physiques et intellectuelles et de l'être humain comme un volet légitime de recherche. Ça, c'était il y a 14 ans. De son côté, qu'est-ce qu'il dit la Commission européenne ? Elle dit des choses, mais déjà en 2004, elle disait, écoutez, ça c'est très bien, on doit travailler sur ça, c'est pas toujours négatif. Il y a des questions thérapeutiques qui peuvent être très bien pour l'humanité, en disant, mais de toute façon, on a besoin d'un encadrement éthique. Et je crois que ça, c'est le point. Et ça, c'est la grande différence si on compare aux États-Unis, qu'on ne voit pas l'éthique. On ne parle pas d'éthique, on ne parle pas des droits moraux sur tout ça. L'Union européenne dit oui, mais il faut un encadrement éthique. Il y a de toute façon, il y a une demande globale indéniable autour de ces technologies. Je vous ai dit avant toute cette histoire de chaque fois on veut s'améliorer avec quoi que ce soit, mais cette tentation de booster, je ne sais pas comment dire ça, d'augmenter ses capacités est là. Physiquement, c'est clair à travers, par exemple, de la chirurgie esthétique. Intellectuellement, pour la prise de drogue, comme Jean-Daniel nous a bien expliqué, ou de médicaments dérivés pour accroître la concentration, par exemple, et la capacité de travail chez certains étudiants pour être heureux, comme les sommets. De toute façon, il y a une chose que je... les dopages, c'est les sportifs, tout ça que je ne vais pas répéter parce que tu en as parlé. Mais il y a une chose que je n'ai pas trop vue ici, c'est toute cette histoire de... C'est quoi, comment on dit en français, painkillers?
Des médicaments qui suppriment la douleur.
Oui. Je ne sais pas si vous avez lu ici en France. Moi, en Espagne, je ne l'ai pas lu. Le? Oui. D'accord. Alors, aux États-Unis, l'année 2007, il y a eu 20 000 à 28 000 morts pour overdose de painkillers. 28 000. Il y a une pratique courante, même maintenant, parce que les painkillers, on ne les vend pas comme ça, ils ont besoin d'une ordonnance. Alors, les gens vont sur Internet, lisent à quoi ils servent, un painkiller concret, va chez le médecin. Lui dit j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Les médecins lui donnent ordonnance et c'est pain killer. Ça, c'est si important, la montée des morts, les morts pour overdose de painkillers, que le président Obama, l'année 2011, a fait un speech à la nation, un discours à la nation, en disant écoutez, il faut arrêter ça. c'est pas une overdose dans les sportistes ou quelque chose comme ça. 28 000 morts l'année 2007, c'est beaucoup, c'est trop peut-être. Alors, une conclusion s'impose. Nous faisons partie d'une société qui envisage de plus en plus les corps humains comme un outil améliorable. On n'est pas content avec ce qu'on a. On a désir toujours d'améliorer. Et j'ai trouvé ce morceau dans Le meilleur des mondes qui me semble très bien, qui dit, blablabla, un système eugénique à toute épreuve, conçu de façon à standardiser les produits humains et faciliter ainsi la tâche des directeurs. Et je crois qu'on est là. On est en train de faciliter les tâches des directeurs. Qui sont les directeurs? C'est à vous de penser, d'y penser. Je vais vous montrer un peu comme l'autre jour, parce que sinon on a la sensation qu'on parle des choses du futur. Je voudrais vous montrer qu'est-ce qu'il y a déjà sur des questions concrètes. Tu me contrôles le temps?
Oui, ben je crois qu'il faut que tu contrôles ton temps.
Non, je suis incontrôlable en ce sens-là. Ça veut dire que je dois finir, non?
Juste que René est en train de s'endormir.
Tu es en train de t'endormir? Bon, je vais tout... Oui, il est en train parce qu'il ne me répond même pas. Alors, écoutez, je vais très rapidement ici. On travaille déjà en de l'electronic skin, de peau électronique. Il y a les schémas que vous ne voyez pas parce que c'est impossible, mais ici, il y a un morceau de peau électronique. Vous avez des implants toujours performance comme la Hans Prosthetic. C'est une main que j'ai vu des vidéos et qui fait tout sortes de mouvements, il y a des vidéos sur internet, toutes sortes de mouvements, sauf qu'elle est, si ce n'est pas un objet connecté, elle est incapable de savoir qu'elle touche un objet. Alors, on a inventé ça, que c'est un doigt prosthétique avec une mémoire de 2 gigabytes qui, lui, il est capable avec la main de reconnaître l'objet qu'il est en train de toucher. Encore une jambe contrôlée par les cerveaux, pistorius again, des yeux artificiels, pas les yeux opérés des japonaises qui font maintenant, c'est la mode de s'opérer les yeux pour les avoir rondes, pas comme nous, mais comme les images manga, hein, mais des vrais yeux artificiels utilisant des signaux électriques qui envoient des signaux au cerveau. Pour le moment, ça a été testé avec Sanjo, et ça marche très bien. Et des chercheurs de l'Université de Tokyo ont inventé aussi des glandes lacrymales artificielles, oreilles imprimées en 3D, un nez artificiel, c'est l'Université de Illinois qui a créé ça. J'ai trouvé cette image, mais c'est pas le nez artificiel. À quoi ça sert? Ça sert à identifier des maladies à partir de l'odeur des bactéries. Et ça n'a pas la forme d'un nez, c'est une bouteille, hein, avec un liquide et tout ça. Un bourgeon de foie. Ah non, ça c'est un nom. Ça c'est un nom. Fabriqué à partir des cellules souches. Un bourgeon de foie pour transplanter un malade avec des problèmes graves de foie. Les pancréas artificiels, je ne l'ai pas trouvé, mais ils existent déjà. Il y a des années que les chercheurs affirment, oui, parce que je n'ai pas trouvé de cœur cultivé, mais ils disent qu'ils peuvent cultiver des cœurs avec des cellules souches. Mais ils sont arrivés avec des cellules souches de la peau qui ont permis un tissu qui peut battre par lui-même. Alors, on a travaillé tout ça. Un tissu du sein, chercheurs allemands de l'Helmholtz Center ont développé une espèce de glande mammaire en miniature qui aide à réduire les cancers du sein. Et de chercheurs australiens qui ont développé un mini-cerveau équivalent à ceux d'un fœtus de 9 semaines. Le problème, c'est qu'ils sont incapables de faire circuler du sang et pourtant ça ne sert à rien pour le moment, sauf pour la recherche. Mais de toute façon, il y a des gens qui travaillent avec, avec les cerveaux pour reproduire des cerveaux. Vous avez les ces projets, que c'est un projet allemand de Heidelberg. Et il y a aussi ces projets, les Blue Brain Project, qui travaillent surtout, c'est suisse, ils travaillent surtout à voir comment... décharger les données de notre, d'un cerveau humain à un cerveau artificiel. C'est Watson, oui. Bon, j'ai fini avec les exemples. J'allais parler de la médecine régénérative, mais je n'ai pas le temps. Je passe tout ça jusqu'à arriver à... à des risques. Bon, il y a des risques que je ne veux pas approfondir sur ça, sur les effets secondaires, sur la non-maîtrise, sur les effets secondaires. De toute façon, si on voit les effets secondaires dans les substances que les sportistes utilisent, on les voit, ils les lisent, mais ils les prennent de toute façon. Et la question des non-maîtrises, parce que c'est les deux risques considérés qu'ils disaient. C'est un enjeu systémique un peu. Et c'est un peu... La question serait si on serait face à un monde de fonctionnement de la recherche où l'on crée d'abord des structures complexes avant d'explorer, de se laisser surprendre pour la propriété. Ça veut dire, ça serait un peu comme Frankenstein. On crée les monstres et après on se demande qu'est-ce qui se passe. Non, c'est les deux risques majeurs qu'on voit ça, les effets secondaires et tout ça. Sans parler des risques sociaux. L'amélioration artificielle de l'homme risquerait de devenir une norme imposée directement ou indirectement pour les employeurs, par exemple. L'école ou le gouvernement. Je me demandais si on ne se trouverait pas face à une société de performance quasi eugéniste. Et encore une fois, j'ai le temps de passer 2 minutes de ça.
Oui.
Non.
1 minute 30.
Oui, moi je commence à être un peu, comment on dit ça, non, fatiguée, non. Mais.
Chance d'être heureux.